Ouais, je suis docteur Robin Ménage, je suis le directeur scientifique des cliniques de jeunes Büchinger en Allemagne et en Espagne, bientôt en France. Et je suis aussi chercheur au King's College de Londres. Et donc ça, ce jeûne, on le fait depuis des millénaires. On a toujours jeûné en fait, parce que dans la nature, on n'a jamais eu à manger en permanence. Donc on a perdu cette culture d'avoir des interruptions, qui est très nécessaire. Alors l'idéal, c'est de prendre son petit déjeuner, mais pas de le prendre directement quand on se lève. Ce qui fait que les docteurs en Allemagne peuvent prescrire des thérapies de jeûne à leurs patients, c'est vraiment complètement accepté, alors qu'en France, on a tendance un petit peu à chasser les médecines complémentaires, à tout mettre dans le même pot comme si tout était de la charlatanerie.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est deux check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendue enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life. Choisis ton test et entre le code PODCAST1000 pour une réduction. Lien et code en description.
Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de 1000% Podcast, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Robin Ménage, l'expert européen du jeûne. On va parler justement du jeûne intermittent. On entend beaucoup de choses. Est-ce que c'est réellement efficace? Est-ce que c'est surcoté? Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques derrière tout cela? Donc on va essayer de décortiquer ça avec vraiment un expert. On va voir ce que dit la science et également vous donner des conseils pratiques. On est au sommet de l'hypersanté qu'on remercie pour l'invitation. On a passé un week-end incroyable où on a rencontré des experts et vous allez retrouver plein d'épisodes sur 1000%. Place à l'épisode. Merci Robin d'être présent avec nous aujourd'hui. On va parler du jeûne intermittent, mais on va quand même avant tout te laisser te présenter pour les auditeurs des 1000% qui ne te connaissent pas.
Ouais, je suis le docteur Robin Ménage, je suis le directeur scientifique des cliniques de jeûne Büchinger, qui sont en Allemagne et en Espagne, bientôt en France. Et je suis aussi chercheur au King's College de Londres, auquel j'ai travaillé pendant une dizaine d'années.
Ok, comment ça se passe? J'ai vu qu'il y avait un petit peu du retard en France sur le jeûne par rapport à l'Allemagne justement et l'Italie où il y a beaucoup de recherches.
Oui, il y a beaucoup de recherches maintenant. C'est vrai que c'est un sujet de recherche très stimulant. En Allemagne, c'est vraiment intégré dans le système de santé publique parce que l'Allemagne est un pays où ils utilisent beaucoup la naturopathie. Et depuis plus d'un siècle, il y a plein de techniques de naturopathie, de médecine complémentaire, qui ne sont pas la médecine des médicaments, qui ont été intégrées dans les universités. Et donc, en les intégrant dans les universités, on peut faire des recherches, on peut savoir ce qui fonctionne vraiment et prouver scientifiquement les choses pour comprendre comment les utiliser en clinique, ce qui fait que les docteurs en Allemagne peuvent prescrire des thérapies de jeûne à leurs patients. C'est vraiment complètement accepté, alors qu'en France, on a tendance un petit peu à chasser les médecines complémentaires, à tout mettre dans le même pot comme si tout était de la charlatanerie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, en France, en ayant cette attitude, en marginalisant ces techniques, c'est beaucoup plus contre-productif parce que ça laisse la porte ouverte à ceux qui font n'importe quoi.
Alors que le jeûne est ancré dans la civilisation humaine, parce que depuis combien de temps on commence à jeûner? C'est quelque chose qui est en nous depuis plusieurs millénaires presque?
C'est ça, on a toujours jeûné en fait. Et ça, on l'oublie parce que dans notre mode de vie, on est toujours à fond. On n'alterne pas entre manger et jeûner, on dort moins, on se stresse beaucoup plus et on a perdu cette culture d'avoir des interruptions qui est très nécessaire. Et donc ça, ce jeûne, on le fait depuis des millénaires. On a toujours jeûné en fait parce que dans la nature, on n'a jamais eu à manger en permanence. Donc c'est quelque chose qui est normal pour tous les animaux, pour tous les êtres humains avant nous. On alternait entre manger et jeûner en permanence. Et ça parce qu'il y a des rythmes naturels aussi. Quand tu regardes ces deux rythmes naturels, l'alternance entre le jour et la nuit, ça c'est ce qui fait qu'on va faire du jeûne intermittent tous les jours, et l'alternance des saisons, parce que parfois il y a des saisons sèches, les hivers sont durs, on n'a pas à manger, et ça c'est des périodes où on est obligé de jeûner.
Aujourd'hui, on va vraiment parler du jeûne intermittent et on fera justement un autre épisode sur le jeûne long, et je pense que ça sera super intéressant. Avant, comment on se nourrissait? Est-ce qu'on a des infos sur ça? Combien de repas on faisait dans la journée? Parce que là, on va parler du jeûne intermittent, donc Est-ce qu'on faisait un gros repas? Est-ce qu'on en faisait deux? Est-ce qu'on mangeait un petit peu toute la journée? Est-ce qu'on a des informations vraiment sur ça?
On avait tendance à manger aussi quand c'était disponible. Vraiment, il y a très longtemps, on parle de millions d'années, quand on a vraiment évolué à partir de nos ancêtres en Afrique. Et c'est pour cela que restreindre la fenêtre dans laquelle on mange, ça peut être thérapeutique parce qu'en fait, de manger 4 à 5 repas par jour, parfois c'était recommandé. Maintenant, on a l'idée 3 repas par jour, mais il y a eu un temps, il y a quelques dizaines d'années, c'était 4 à 5 repas par jour. On n'a jamais été programmé pour ça.
Et avant, on mangeait deux fois dans la journée. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez récent, justement, de faire ces trois repas dans la journée, avec le petit déjeuner, le repas et même les collations au milieu.
Ouais.
C'est quoi? C'est pour nous faire, c'est peut-être un peu touchy, mais est-ce que c'est pour nous faire consommer un peu plus?
Ça n'a jamais été en fait la même chose. Dans différentes civilisations, dans différentes cultures, on a mangé parfois un repas par jour, parfois deux repas par jour, parfois trois repas par jour. Et ça, même dans l'histoire récente de l'humanité. Et je ne pense pas que ça soit pour forcer à consommer. Ce qui nous force à consommer, c'est la logique de faire des produits qui sont vraiment ultra addictifs. Et ça pousse vraiment à la consommation. Là, il y a vraiment une logique marchande derrière ça. Mais je pense que c'était vraiment un confort, en fait, parce que notre corps est programmé pour aussi prendre à manger quand c'est disponible. Et donc, c'était de se faire un confort que d'avoir trois repas par jour, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Et parfois, il faut se forcer un petit peu pour pouvoir sortir de cette zone de confort.
On n'est plus du tout adapté à cette opulence et cette accessibilité alimentaire permanente.
Ouais, on n'a jamais été vraiment adapté pour ça parce qu'on a toujours jeûné et c'est pour ça que quand on est malade de nos jours, c'est des maladies de civilisation qui sont dues à différents facteurs, l'exercice physique, on en manque, mais on manque aussi de jeûne. Et ça, on dit souvent que on doit bien dormir. On doit bien dormir parce que tout le monde a en tête que le manque de sommeil, c'est quelque chose qui va nuire à la santé. Et on a même des syndromes de déficit de sommeil qui commencent à être bien caractérisés. Mais pendant la nuit, ce n'est pas juste une période de sommeil où on dort, c'est une période aussi de jeûne. Et du coup, le jeûne a les mêmes vertus que le sommeil pour régénérer le corps, pour équilibrer le corps. Et on peut même se dire qu'on est en déficit de jeûne. Si on développe toutes ces maladies comme le diabète de type 2, c'est parce qu'on mange trop à n'importe quelle heure, n'importe comment. Et du coup, on est en déficit chronique de jeûne. Et si on restaure ces rythmes naturels, c'est thérapeutique, c'est le jeûne intermittent.
Parce qu'en fait, on est toujours exposé à des apports caloriques, à des apports notamment glucidiques. On a des petits pics glucidiques toute la journée et on ne serait pas adapté à ces pics récurrents. Qu'il y en ait ponctuellement sur la prise alimentaire, c'est une réponse normale, mais qu'il y en ait autant dans la journée et qu'il y ait cette insuline à un niveau qui est élevé toute la journée, cet hyperinsulinisme chronique, c'est ça qui nous pose problème.
C'est ça, c'est vraiment l'insuline, c'est une hormone de stockage. Elle est là pour pouvoir stocker du gras quand on n'a pas à manger pour pouvoir l'utiliser. Et donc d'avoir des pics de glucose en permanence, ces pics de glucose, ils vont faire sécréter de l'insuline. Et si on en a en permanence parce que l'on snack, on va jamais être dans un mode où on utilise l'énergie. On est toujours dans un mode où on stocke de l'énergie. Et ça fait que le corps n'a jamais le temps de pouvoir se régénérer.
Mais est-ce qu'on fait quand même un jeûne intermittent, mais est-ce qu'on baisse le nombre de calories dans la journée ou est-ce qu'on garde le même nombre de calories dans notre journée?
C'est le piège.
Ouais, il y a plein de façons de faire du jeûne intermittent. Même si on garde le même nombre de calories dans la journée et que l'on restreint la fenêtre pendant laquelle on mange, on va avoir des effets qui sont bénéfiques. Donc, ce n'est pas juste une histoire de nombre de calories. C'est vrai que dans toutes les études scientifiques, on voit que, en fait, quand on fait du jeûne intermittent, les gens ont tendance à moins manger, ce qui est très bénéfique parce que généralement, on mange tous trop. Les gens vont perdre du poids et vont s'en sentir mieux, vont être en meilleure santé pour cela. Mais ce n'est pas juste cette perte de poids, il y a vraiment des mécanismes qui font que restreindre le temps pendant lequel on mange, pendant la journée, c'est bénéfique parce qu'on a des horloges vraiment dans toutes nos cellules qui permettent aux cellules de comprendre est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit, est-ce que je suis en mode jeûner ou en mode manger. Et si on ne respecte pas le rythme dicté par ces horloges, on mange pendant la nuit, pendant la nuit, notre corps, il réagit comme si on était diabétique. On va stocker, on ne va pas vraiment utiliser l'énergie parce qu'on est résistant à l'insuline pendant la nuit. Et du coup, ça fait que si on mange trop tard, si on mange trop de glucides trop tard, on va avoir tendance à stocker, on va avoir tendance à avoir des problèmes métaboliques sur le long terme.
Oui, mais Robin, ce que je ne comprends pas, c'est si je ne mange pas le matin, je ne vais pas avoir d'énergie pour ma journée.
Ah, ça, c'est une question un petit peu piège, mais du coup, c'est vrai qu'on a toujours de l'énergie parce qu'on a... de l'énergie sous forme de glycogène qui est là dans notre foie, dans nos muscles. Le glycogène, c'est une molécule composée de sucre qui est là pour être utilisée très rapidement, très facilement quand on n'a pas à manger. Et donc, si on n'a pas à manger le matin, on va utiliser son glycogène, on va peut-être aussi avoir tendance à commencer à utiliser son gras, mais on n'a pas forcément besoin de manger le matin. Alors, si ça, je voudrais ajouter quand même que je recommande toujours de quand même manger le matin. Je pense que c'est quand même un repas très important. Et quand on veut faire du jeûne intermittent, si on a à choisir entre sauter son petit déjeuner ou sauter le dîner, c'est quand même mieux de sauter le dîner, même si on n'a pas forcément à le sauter. On réduit parfois juste, on le mange plus tôt et on va manger un dîner léger. Mais le petit déjeuner est quand même très important.
On va expliquer de toute façon dans une partie à la fin tous les cas pratiques du jeûne intermittent. J'avais une question, j'avais vu qu'il y avait une relation entre l'espérance de vie et le nombre de calories consommées dans notre vie, que moins on en consommait et plus on vivait longtemps. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est faux?
C'est réel et ça a été montré chez plein de modèles animaux, c'est vraiment très caractérisé. On sait très bien que la méthode thérapeutique, que ce soit des médicaments ou des interventions qui prolongent le plus le mode de vie, c'est la restriction calorique et le jeûne. Et c'est parce qu'on est comme des moteurs qui utilisons du carburant, l'alimentation. Et si tu dois utiliser ton moteur à plus fort régime, beaucoup plus, et tu n'as pas des périodes de maintenance, tu n'amènes pas ta voiture au garage comme si tu le faisais en jeûnant, bah, ton corps va s'user plus vite et ça provoque du vieillissement. Et ça, on le comprend très bien parce qu'on sait que quand on utilise de l'énergie, quand on va utiliser de l'oxygène pour pouvoir produire de l'énergie dans notre corps, on va produire du stress oxydatif. Ce stress oxydatif va abîmer nos cellules, abîmer le contenu de nos cellules. Et au fur et à mesure du temps, au fil de dizaines d'années, ce stress oxydatif va être un des facteurs de vieillissement. Et on vieillit plus vite parce qu'on rouille en fait. Le stress oxydatif, c'est comme de la rouille.
C'est quand même un peu paradoxal, parce que là, on était au sommet de l'hypersanté, on a fait un atelier sur l'activité physique et sur la prise de masse musculaire, c'est une façon aussi de voir les choses sur la longévité, de développer le muscle qui est un organe endocrine, qui a tout un tas de fonctions sur les systèmes, mais on va utiliser une voie quand même anabolique pour construire de la masse musculaire et on est sur de la production cellulaire, on est sur de la croissance. Alors que le modèle dont tu parles, c'est plutôt du modèle économique de réduire la voilure, de réduire les calories, alors que sur cette voie-là, je pense que c'est un délicat équilibre qu'il faut avoir entre ces deux systèmes.
C'est ça, c'est un équilibre. Il faut toujours être dans l'alternance entre ces deux systèmes parce qu'on a besoin de masse musculaire, ça c'est clair. C'est un des prédicteurs le plus efficace de la longévité, d'avoir le plus de muscles, parce que si on rentre dans cette sarcopénie où on perd du muscle en vieillissant, on va avoir tendance à être fragile, moins mobile, moins indépendant, on va tomber et c'est vraiment un des prédicteurs de la mortalité. Donc la masse musculaire est très importante. Ça, c'est clair, mais on peut alterner entre... faire des jeûnes réguliers qui ne sont pas dangereux pour la masse musculaire et faire de l'exercice physique qui va faire de la croissance musculaire. Mais il y a une limite quand même, parce que est-ce que de faire trop de muscles, c'est bon? Pas forcément. Si tu regardes les études qui ont été faites, par exemple, sur les athlètes olympiques, ceux qui vivent le plus longtemps, c'est ceux qui font de l'exercice d'endurance, ceux qui font de la résistance. Est-ce qu'au final, sur le long terme, ça ne crée pas un stress? Ils vivent moins longtemps que ceux qui font de l'endurance, même si les athlètes, en général, vivent plus longtemps que la moyenne. Donc, est-ce que trop de muscles, d'être dans un anabolisme permanent sans être dans un catabolisme pour faire une balance, c'est bien? Ça, les questions sont encore là.
C'est sûr, il faut arriver à être équilibré. Nous, ce qu'on promeut, c'est de l'équilibre entre du travail cardiovasculaire en majorité et du travail de résistance pour développer la masse musculaire en assistance. Et il faut avoir un discret équilibre entre les deux. Et c'est pour revenir sur ces deux voies. En fait, on parle d'anabolisme et de catabolisme, ce discret équilibre, parce qu'on est plutôt sur la voie mTOR. Je ne sais pas si on peut rentrer un peu dans ce détail. Oui, mTOR, c'est la voie anabolique, c'est la construction de masse musculaire. Et AMPK, c'est plutôt la voie du jeûne et de la régénération. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Les deux, en fait, sont couplés. Parce que mTOR, c'est la voix qui va savoir s'il y a les briques de la vie, les acides aminés, s'il y a des protéines, s'il y a ce qu'il faut pour croître.
La masse.
La masse. Et AMPK, ça va être la voix qui va…
La sèche.
Pour l'énergie, pour assimiler l'énergie. Donc, ça va être un interrupteur. Est-ce qu'il y a de l'énergie disponible ou pas? Donc, ces deux voies, elles sont là pour savoir est-ce qu'il y a de l'énergie, est-ce qu'il y a les briques pour pouvoir utiliser cette énergie et croître. Donc, elles sont les deux vraiment couplées. Et quand on désactive mTOR, c'est aussi vraiment un des effets du jeûne. On commence à brûler son gras, on va rentrer dans l'autophagie. Et donc, c'est vraiment… En fait, mTOR, AMPK vont vraiment dicter cette alternance entre manger, qui est vraiment l'anabolisme, et jeûner, qui est plutôt le catabolisme. Et donc, c'est vraiment dans l'équilibre. C'est vrai que d'avoir, comme tu le dis, un bon équilibre entre exercice de résistance, exercice d'endurance, c'est très important parce qu'on tire des bénéfices. Mais comme quand on fait de l'exercice, on ne va pas faire de l'exercice en permanence. Il y a des périodes de repos. Quand on mange, c'est exactement la même chose. Il faut aussi reposer son corps parfois, et ça, c'est parce que c'est le jeûne intermittent, et ça, on l'a oublié dans nos sociétés.
Mais le jeûne intermittent, je trouve qu'il est quand même très dur à mettre en place sur le sportif d'endurance qui va commencer à avoir des volumes d'entraînement qui sont importants. Si on veut condenser ça sur une petite fenêtre, ça serait quoi vos recommandations justement? Avant, on va parler après dans une seconde partie vraiment ce qui se passe au niveau physio dans le jeûne intermittent, mais juste si on devait finir cette partie-là.
C'est vrai que sur le jeûne intermittent, pour le sportif, ça ne va pas être le même protocole que le jeûne intermittent pour la personne qui veut vraiment perdre du poids et se débarrasser d'un diabète de type 2. Donc, on peut restreindre la fenêtre pendant laquelle on mange pour pouvoir avoir quand même pendant la nuit ce processus de maintenance. Mais c'est vrai que un athlète qui veut faire de l'endurance, il va falloir avoir du carburant parce que surtout si on monte dans des régimes où le corps va devoir utiliser des sucres, pas que le gras, on va devoir là apporter du carburant. Donc, on fait du jeûne intermittent, mais on ne restreint pas forcément les calories. Et le problème qui peut être aussi dans ce cas-là soulevé, c'est la prise de protéines. Parce que si on ne fait pas attention à son alimentation, à la quantité de protéines que l'on mange, pour un athlète, quelqu'un qui veut vraiment développer aussi sa masse musculaire en fonction des objectifs, d'assurer une bonne prise de protéines, ça, c'est important. Et c'est pour ça que parfois, même une femme après la ménopause, souvent a tendance à perdre des muscles, à aussi prendre des graisses. Et donc là, c'est aussi où il faut faire attention avec le jeûne intermittent pour avoir vraiment une prise de protéines adéquate.
Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
On comprend que le jeûne intermittent, il y a plusieurs modalités en fonction de la personne. Donc, ça serait quoi la fourchette haute du jeûne intermittent pour avoir des effets positifs sur une personne qui est plutôt en surpoids? Et au contraire, la fourchette basse pour un sportif d'endurance qui, lui, a besoin de manger en termes d'heures, ça correspond à quoi?
Alors, pour une personne qui est en surpoids, qui veut se débarrasser d'une maladie métabolique, ça peut être de ne pas manger pendant une journée entière ou même deux journées entières par semaine. Alors ça, c'est mieux de le faire avec un suivi médical, mais c'est super efficace pour perdre du poids, se débarrasser d'un diabète de type 2. Mais ça crée un déficit de calories tellement grand que ce n'est pas ce que l'on va préconiser pour un sportif. Ce qui est le plus facile aussi, c'est de mettre ce jeûne intermittent sans rater une journée complète, juste de restreindre la fenêtre pendant laquelle on mange pendant la journée. Et on fait ça tous les jours, même si on peut avoir des cheat days. Il faut être aussi tolérant
Flex.
Et vivre normalement, ouais, parce que sinon, c'est trop stressant et ça ne dure pas sur le long terme. Mais ça, c'est ce qui va vraiment être approprié pour une personne qui veut faire ça régulièrement, comme routine. Parce que quand on commence le jeûne intermittent, au bout d'un moment, ça devient vraiment une routine. Et moi, je ne mange pas trop le soir. Si je mange trop tard le soir, si je vais au resto, je sais que je vais mal dormir. Je peux vraiment comprendre à l'avance ce qui va se passer dans mon corps. Et je sais très bien que mon fonctionnement optimal, c'est d'arrêter de manger aux alentours de 6 heures du soir. Ça, c'est mon fonctionnement optimal. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller au resto, mais je sais très bien qu'il faut vraiment que je trouve un équilibre.
Combien d'heures on va chercher alors de jeûne entre 6 heures et après à quelle heure vous petit déjeuner le matin? Ça fait combien entre les deux?
Alors, l'idéal, c'est de prendre son petit déjeuner, mais pas de le prendre directement quand on se lève. Parce que quand on se lève, on a toujours notre hormone mélatonine qui est toujours haute. On a besoin de la faire descendre pour pouvoir tolérer vraiment bien le petit déjeuner. Parce que quand on dort, on sécrète de la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et quand on sécrète cette mélatonine, elle va endormir le pancréas. Parce que le pancréas, normalement, quand on dort, on n'a pas besoin d'assimiler les aliments. Donc, le pancréas se régénère et on va réagir comme un diabétique. Ce qui fait que si on va manger directement quand on se réveille, on ne va pas tolérer la prise de glucides. On va se sentir mal. On va avoir un pic de glucose, un crash. On va se sentir avec un peu foggy, fatigué. Après, on va avoir faim. Et donc, il faut mieux attendre quelques heures, au moins une heure ou deux, quand on s'est réveillé avant de prendre son petit déjeuner.
Même si on mange protéiné le matin?
On va manger protéiné, ça va éviter d'avoir un pic de glucose trop haut. Ça, c'est super. C'est vrai que c'est l'idéal de manger un petit déjeuner avec des protéines. Mais même si on mange un petit déjeuner avec des protéines, de le faire trop tôt par rapport à son sommeil, c'est quand même pas terrible parce qu'on est toujours un petit peu endormi et c'est pas juste dans notre tête, le corps est toujours un petit peu endormi, même la digestion est endormie.
Super intéressant.
Mais on parle par exemple de petit déjeuner, ce qu'évoquait Alexandre, c'est de manger que des œufs brouillés, hein, c'est-à-dire petit déjeuner, il y aura pas de pain avec, il y aura pas de glucides, même dans ce cas-là.
C'est le système digestif qui est aussi un petit peu endormi, donc c'est juste pas facile, mais c'est pas compliqué en fait, parce que c'est pas de... ça correspond pas à rater son petit déjeuner, c'est juste d'attendre une petite heure. Donc,
C'est compliqué de manger des œufs brouillés dans le métro pour certains.
Ouais, ou... c'est vrai que c'est là où il faut être aussi flexible par rapport au mode de vie. Ça, c'est vraiment l'idéal. Si on était vraiment dans un laboratoire sans vie sociale, sans rien, l'idéal, c'est d'avoir... une période de jeûne qui est de 14 heures pendant la nuit. On va manger pendant 10 heures. Et donc, c'est pour cela que si on a un petit déjeuner, on se réveille à 6-7 heures du matin, on attend une heure, on mange à 8 heures un petit déjeuner. Après, on va manger le déjeuner qui peut être quand même assez riche parce que ça peut être vraiment le repas principal de la journée. Et après, on va avoir un repas léger, donc... dans ce cas-là, vers 6 heures du soir, là, on va avoir vraiment la fenêtre idéale. Mais idéal, ce n'est pas forcément ce qui est optimal pour la vie quotidienne parce qu'on a un travail, on a des enfants. Et donc, c'est pour ça que certaines personnes vont gagner peut-être à sauter le petit déjeuner. Certaines personnes vont devoir manger directement. Il y a vraiment un travail à faire pour comprendre ce qui est pratique et aussi ce qui est optimal pour une personne.
Ce qui est possible, parce que moi, je finis souvent à 20h le soir et donc je mange tard. Donc, je finis à manger vers 20h45. Donc finalement, sur mon modèle à moi, ce serait de manger à midi et demi mon premier repas et d'avoir cette fenêtre. Donc, moi, j'avais plutôt 16-8, tu sais, en termes de fenêtre de prise alimentaire.
16-8, c'est un classique aussi parce que c'est ce qui a été étudié depuis assez longtemps. C'est ce qui a été étudié en premier. La petite histoire, elle est assez drôle parce qu'en fait, 16-8, c'est juste les shifts de travail. En fait, les personnes qui ont voulu étudier le 16-8, ils se sont dit, bon, on va commencer à faire une restriction calorique. On va faire pendant 16-8 parce qu'on peut être 8 heures au travail pour contrôler ce que les gens mangent ou les animaux. C'était aussi sur des animaux de laboratoire. Mais ce n'est pas forcément l'idéal physiologiquement. D'ailleurs, cet idéal est toujours personnalisé. Mais je dis souvent 14-10 parce que 14-10, c'est plus facile. Il y a quand même une grosse différence pour une personne entre faire 14-10 et 16-8. Et 16-8, ça peut amener aussi à un déficit de calories. Une personne qui veut perdre du poids, je vais lui dire, commencez par 14-10, mais allez vers 16-8, parce que vous avez besoin vraiment d'avoir une compression de cette fenêtre pour manger moins. Mais une personne qui veut vraiment avoir ça dans son mode de vie au quotidien pour prévenir les maladies sur le long terme, 14-10, c'est très bien.
C'est plus flexible et donc il y a une meilleure adhérence.
Ouais, il y a une meilleure adhérence. Et dans ton cas, par exemple, si tu peux manger qu'à 20h le soir, faut faire avec. Mais dans ce cas-là, tu peux éviter d'avoir trop de glucides le soir parce que ça, pendant la nuit, ça va vraiment charger ton métabolisme et faut mieux avoir un repas léger ou alors un repas léger avec des protéines, mais éviter vraiment l'assiette de pâtes, par exemple. Mmh. L'assiette de pâtes, c'est pour le midi, c'est pas pour le soir.
Ouais, mais le midi, je vais cracher aussi.
Et c'est vrai qu'une question que je me pose, c'est-à-dire, moi, je fais pas le jeûne intermittent, personnellement. Qu'est-ce que vous me conseillerez de plutôt faire un jeûne intermittent le matin? Parce que moi, je vous dis, le soir, honnêtement, je pourrais pas me priver d'un repas, c'est pas possible. Est-ce que vous me direz, fais plutôt le matin ou continue comme tu fais, si ça va bien, il n'y a aucun souci? Quel intérêt il y aurait pour moi, qui je me sens plutôt en forme, et j'espère que ça durera, de faire un jeûne intermittent? Ou non?
Le jeûne intermittent, pour une personne en bonne santé, c'est un peu comme une assurance, en fait, parce que c'est vrai que tu ne vas pas forcément avoir des bénéfices directement, mais tu vas être dans une situation optimale pour te protéger. Donc, tu vas peut-être être plus résistant au stress, tu vas être... souvent, les gens sont plus alertes aussi au niveau du cerveau, ils se sentent mieux. Et donc, ça pourrait être ces bénéfices, mais c'est tellement pas... C'est toujours personnalisé, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait un accompagnement en fonction de aussi tes objectifs. Si tu veux prendre de la masse musculaire, si tu veux faire de l'exercice, si tu veux vraiment être dans une situation anabolique, peut-être que ce n'est pas le moment pour faire du jeûne intermittent. Je ne dis pas que le jeûne intermittent, tout le monde doit le faire. Je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui gagneraient vraiment à le faire.
C'est quand même délicat parce que, par exemple, dans le cas d'Alexandre, qui s'entraîne beaucoup, c'est quand même un stress de mettre en place du jeûne et de faire du jeûne, plus beaucoup s'entraîner, plus peut-être si lui, il a une vie stressante à côté, ça fait quand même beaucoup de choses. Il faut pas prioriser dans ce cas-là et se dire, peut-être c'est pas la période de l'année où tu auras un entraînement le plus intense, d'être en maintenance sur l'activité physique, de pas être sur un cycle de progression et là, tu priorises le jeûne. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, il faut choisir.
On ne peut pas tout faire en même temps. Et dans ton cas, c'est vrai que ce n'est pas forcément peut-être la meilleure période de ta vie pour jeûner, pour commencer ce genre de choses, parce que ça ne correspond pas à tes objectifs. Et si tu es en bonne santé pour l'instant, peut-être que tu ne vas rien gagner à jeûner. Mais par contre, si un jour, si tu continues ce mode de vie, mais un jour tu fais une prise de sang et tu vois que ton marqueur de prédiabète augmente, là, tu vas gagner à changer ton mode de vie. Mais ce n'est peut-être pas forcément pour maintenant.
Mais est-ce que vous voyez le jeûne, on va rentrer après dans les mécanismes pour les auditeurs qui sont là et qui sont impatients, qui sont patients. Mais est-ce que vous voyez le jeûne comme un pilier de la santé? C'est-à-dire que nous, on voit l'activité physique comme un pilier de la santé, on voit le sommeil comme un pilier, on voit l'alimentation. Mais est-ce que vous, le jeûne, c'est quelque chose qui est essentiel pour vous, qui est vraiment on a sous-estimé dans le temps et qu'on sous-estime
pour moi,
encore?
C'est un des piliers de la santé. Et c'est pour moi un pilier de la santé parce que c'est vraiment une fonction physiologique comme le sommeil. J'en vois 6 des piliers de la santé. Pour moi, il y a la nutrition et le jeûne. Ça ne s'oppose pas forcément, ce n'est pas juste d'arrêter de manger le jeûne parce qu'il y a vraiment un programme de réparation. Donc, la nutrition, le jeûne, l'activité physique, l'exercice, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément juste de faire du sport, il faut aussi se bouger régulièrement. Il y a différents types d'activités physiques et de sport.
La lutte contre la sédentarité.
La lutte contre la sédentarité, c'est ça. Il y a le sommeil, parce qu'en général, on a tendance à quand même pas très bien dormir dans nos sociétés. La santé émotionnelle est très importante, parce que le stress, ça va vraiment se répercuter sur le corps, ça va nous rendre malades sur le long terme, et on a des gros problèmes de santé mentale, émotionnelle dans nos sociétés, donc ça, c'est vraiment aussi un pilier. Et pour moi, le 6e pilier, c'est la qualité de l'environnement. parce qu'on a un environnement qui nous empoisonne. On est exposé à des plastifiants, des pesticides, toutes ces molécules qui sont invisibles, elles nous rendent malades sur le long terme. Ce n'est pas détecté, c'est mal réglementé, mais on sait très bien que les personnes qui vont avoir un mode de vie ou vont être exposées à une pollution environnementale, une pollution des aliments, de l'eau, vont avoir tendance à développer des maladies. Donc la qualité de l'environnement, c'est aussi très important.
Et est-ce que tu pourrais nous citer juste les effets, nous balancer les effets du jeûne? Pourquoi on doit jeûner? C'est quoi les effets sur le corps? Peut-être qu'on rentrera, oui, sur le jeûne intermittent. Et peut-être tu pourras mettre des nuances avec le jeûne long et ce qu'on pourra avoir, parce qu'on va faire un deuxième épisode sur le jeûne long avec toi. Est-ce que tu peux nous citer pour convaincre peut-être les auditeurs à se lancer à jeûner?
Parce qu'on entend beaucoup de choses, hein. Le gras, le système nerveux, le cerveau, on s'y perd, honnêtement, on voit beaucoup sur les réseaux surtout, il y a beaucoup de...
Que ce soit les effets macroscopiques sur le métabolisme ou les effets microscopiques aussi sur la mitochondrie.
C'est vrai qu'on entend tout et rien, parce que c'est vrai qu'il y a des études qui disent parfois des choses un petit peu contraires, mais il y a vraiment un consensus sur le fait que le jeûne va permettre d'améliorer la composition corporelle. On va éliminer les graisses qui s'accumulent, surtout les graisses viscérales qui sont inflammatoires.
Même sur l'intermittent.
Ok. Et on va aussi permettre de protéger la masse maigre. Donc, sur le long terme, on a vraiment une amélioration de la composition corporelle. Et ça va avoir des conséquences métaboliques, parce que les graisses viscérales qui sont inflammatoires, c'est celles qui vont aussi provoquer des maladies métaboliques sur le long terme. Donc, on diminue son inflammation. On va avoir aussi une diminution des marqueurs de diabète. Donc, on va améliorer sa santé métabolique. Et ça va aussi avoir des conséquences sur la qualité de vie, parce que tout ça peut aussi contribuer à un dérèglement du microbiote. Donc la digestion peut être impactée et être beaucoup mieux en faisant du jeûne intermittent. D'avoir cette inflammation chronique que beaucoup de personnes ont, ça peut aussi altérer la santé émotionnelle. Donc souvent, les personnes qui commencent le jeûne intermittent vont avoir des améliorations aussi au niveau du bien-être physique, de la qualité de vie. Mais ça va dépendre vraiment de là où on part, de la ligne de base. Par exemple, dans ton cas, si tu es en bonne santé, tu ne vas pas forcément voir des effets spectaculaires, mais quelqu'un qui est vraiment en mauvaise santé parce que la personne n'arrive pas à contrôler son alimentation, mange pendant la nuit, à trop un excès de graisse, cette personne-là va avoir des effets à partir du jeûne intermittent très rapidement.
Et ce serait quoi là? Parce que souvent les patients, ils nous demandent Pierre ou Robin, dans combien de temps est-ce que ça va marcher? C'est quoi la réponse à cette question?
Quand on commence, ça dépend. C'est mieux d'attendre un petit peu avant de se lancer dans trop de mesures et de faire un bilan après un mois, par exemple.
Ok.
De suivre aussi, de vraiment noter comment on se sent, et parce que on est humain, s'il y a des périodes de stress aussi, s'il y a des maladies, on attrape la grippe, etc. Tout ça,
multifactoriel.
Ça peut affecter. Donc, c'est vraiment un investissement sur le long terme. Une personne avec des maladies métaboliques, ça va être rapidement visible après un mois, mais c'est aussi un investissement sur le long terme pour une personne en bonne santé, si c'est compatible avec le mode de vie. C'est vraiment quelque chose où on a toujours des situations où on a la situation suffisante, où on va avoir un mode de vie en bonne santé, ça va, on se sent bien, et une situation optimale où on va vraiment aller vers une meilleure santé pour la prévention, la précaution sur le long terme. C'est un peu ça la longévité d'ailleurs, c'est cet aspect de précaution, on n'est pas forcément malade, on ne sait pas exactement ce qu'on va prévenir comme
ça,
type de maladie.
Ça c'est 1000%, ça, hein.
Et c'est vraiment la longévité, c'est d'aller vraiment quelque chose d'optimal.
Et au niveau des pathologies cardiaques, est-ce qu'il y a un risque justement? Est-ce qu'il y a une amélioration en faisant un jeûne intermittent ou pas particulièrement?
Il va y avoir une amélioration pour une personne qui va être en surpoids, qui va perdre sa graisse viscérale et son inflammation. Ça va vraiment protéger le système cardiovasculaire. Alors, il y a une étude, si on regarde jeûne, santé cardiovasculaire, et on va tomber sur des études qui ont montré, soi-disant, que sauter son petit déjeuner, ça, c'est dangereux parce que ça provoque des maladies cardiovasculaires. Mais cette étude-là, elle a été faite sur des personnes âgées aux États-Unis qui avaient un comportement alimentaire assez anarchique. Et c'est clair qu'une personne âgée ne doit pas sauter son petit déjeuner. Et ça va faire que la personne va avoir moins d'apport protéines, ça va être dangereux pour le long terme. Donc c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger. Le jeûne, en général, il est plutôt favorable pour la santé cardiovasculaire, surtout si on va améliorer les conditions métaboliques.
Oui, chez les personnes âgées, la priorité, c'est la lutte contre la sarcopénie et qui va aussi impacter grandement la densité osseuse. Et ça, on sait avec les risques de chute qu'une fracture du col du fémur, c'est catastrophique pour une personne âgée. Hein.
Oui, les personnes âgées, il ne faut pas leur recommander de moins manger parce qu'en général, les personnes âgées ont tendance à moins manger.
Et protéines.
Il faut mieux travailler sur qu'est-ce qu'elles mangent pour avoir des protéines.
Justement, vous parlez d'alimentation anarchique avec ces gens-là qui mangent un petit peu n'importe comment. Vous dites, j'ai l'impression aussi qu'il y a une importance de faire un jeûne intermittent, mais contrôlé. C'est-à-dire de vraiment quelque chose de régulier et qui n'est pas anarchique où des fois on se lève le matin, on n'a pas le temps, on part. Et le lendemain, on va faire un jeûne et ainsi de suite. Il faut quand même qu'il y ait une routine, c'est ça?
Ouais, le corps apprécie les routines. Et si c'est anarchique et qu'on saute le petit déjeuner parce qu'on est stressé, parce qu'on n'a pas prévu, là, ça va être stressant pour le corps. Il y a même des études sur les animaux qui ont été faites où des modèles animaux, si on les met à jeûner d'une façon régulière, le corps va s'habituer, il va y avoir des bénéfices. Mais si on leur enlève des repas par-ci, par-là, on va avoir une réaction stressante. Et donc, tout, c'est vraiment un mécanisme assez global. Et pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est aussi ce que l'on voit. Ça va être vraiment très stressant de rater des repas sans les avoir planifiés, en fait.
Oui, il faut entraîner son corps à jeûner par de la régularité et de la fréquence. C'est comme si demain, je me mettais à faire une activité physique nouvelle à haute intensité. Ça va me créer un énorme stress, alors que si je vais courir tous les jours, d'aller courir le matin, ça ne me stresse pas tant que ça.
C'est exactement ça, parce qu'en fait, de jeûner, on s'entraîne, on entraîne sa flexibilité métabolique et faut voir ça comme un muscle, en fait. Un muscle, on va l'entraîner. Pour l'entraîner bien, il faut avoir aussi parfois du coaching. Il faut savoir ce que l'on doit faire. Il ne faut pas le faire trop brutalement. Et le jeûne, c'est exactement pareil. Il faut faire ça souvent d'une manière encadrée, que ça soit personnalisé à ses objectifs. Et comme ça, on entraîne sa flexibilité métabolique. Au début, ça va peut-être être difficile les premiers jours, les premières semaines, parce qu'on a des habitudes, on va avoir faim à des heures auxquelles on mange d'habitude. Et il faut un petit peu de temps pour se créer une nouvelle normale. Et après, le corps vraiment réagit d'une façon complètement automatique. Moi, je l'ai vu pour mon cas parce que j'ai vécu à Londres pendant 10 ans où j'avais vraiment un rythme de vie assez anarchique où je mangeais tard le soir, j'allais au pub boire une bière, etc. Et c'était ma normale. Quand j'ai commencé à pratiquer le jeûne intermittent, au début, ce n'était pas facile. Mais maintenant, je suis vraiment dans une normale où si je mange tard le soir, j'en ai pas vraiment et c'est pas très plaisant pour moi.
Est-ce qu'on soigne réellement le diabète de type 2 avec le jeûne ou est-ce que c'est faux de dire ça?
Alors, je dirais que le jeûne, c'est la seule méthode pour soigner le diabète de type 2 parce que les médicaments qui sont sur le marché, ils sont là pour gérer le diabète de type 2. Une personne qui a un diabète de type 2 va avoir quand même des conséquences sur le long terme. Les personnes même qui ont les médicaments d'une situation optimale pour leur diabète de type 2 ont tendance à avoir beaucoup plus d'accidents cardiovasculaires. La plupart des diabétiques meurent d'une crise cardiaque. Et le jeûne est vraiment la méthode pour pouvoir éliminer les graisses viscérales, les graisses dans le pancréas, restaurer la sensibilité à l'insuline qui crée le diabète. Et donc, avec du jeûne, alors ça peut prendre du temps si on est vraiment dans une situation de diabète de type 2 avancé, mais on guérit vraiment le diabète. Ça, c'est clairement montré scientifiquement. Ce n'est pas juste des anecdotes.
On abordera aussi les modalités du jeûne plus long avec toi dans un second épisode. On va bientôt conclure là-dessus. Mais juste une dernière piste, parce qu'on a notre troisième comparse, Vincent, qui insiste pour sa question. Et c'est vrai que c'est réel, parce qu'il y a une vraie problématique du petit déjeuner chez les enfants qui est hyperglucidique. Et on pourrait se dire que est-ce qu'ils ont besoin d'énergie pour aller à l'école le matin? C'est quand même des métabolismes qui sont en pleine explosion. Ils ont besoin de calories quand même. Comment gérer ce petit déjeuner de l'enfant Pareil, c'est quand même très délicat. Faire jeûner un enfant, ça paraît quand même... Moi, ça me pose problème.
Il faut mieux éviter de restreindre les enfants au niveau... on ne va pas faire jeûner les enfants. Parce que c'est vrai qu'ils ont besoin d'être en croissance. On a, l'idéal, les enfants, c'est vraiment de les éduquer. Les éduquer à ce qui est important, de ne pas trop manger que du sucre le matin, qu'ils découvrent qu'ils se sentent mieux en mangeant autre chose que du sucre. Donc, c'est vraiment un apprentissage avec les enfants. C'est vraiment une éducation pour avoir une nutrition en bonne santé. Mais on ne fait pas jeûner les enfants. Ça, c'est quelque chose qui peut être contre-productif parce que ça pourrait même créer des problèmes au niveau du comportement sur le long terme.
Et des TCA,
parce que c'est
oui.
vrai que c'est souvent quelque chose, au final, que les parents vont imposer à leurs enfants. L'enfant ne va pas vouloir. Et ça, ça peut créer des troubles du comportement si on restreint trop. Donc, on laisse tranquille les enfants.
À partir de quel âge on jeûne ?
Quand on commence, alors nous...
Fin de croissance.
C'est vrai que fin de croissance. Donc, nous, on utilise les 18 ans comme date pour vraiment... Mais c'est aussi une histoire de responsabilité pour nous.
Dès que tu as le droit de commencer à boire des bières, tu peux commencer à jeûner.
Ouais, donc, quand on est ado, quand on est toujours en croissance, c'est vrai qu'il faut mieux attendre. Donc, peut-être à partir d'une vingtaine d'années, quand ça commence... Quand le métabolisme commence aussi à décliner, parce que c'est vrai que dans le corps, il y a plein de choses qui vont être en croissance jusqu'à une vingtaine d'années. Après, ça décline, les fonctions physiologiques déclinent les unes après les autres. Et c'est là où aussi on peut vraiment avoir un effet du jeûne en ralentissant certains de ces processus. Donc, on va dire une vingtaine d'années, mais c'est vrai que des adolescents, je pense qu'il ne faut pas jeûner.
Ben, et toi, tes enfants, le matin, qu'est-ce qu'ils mangent alors ?
Mes enfants, ce n'est pas des références parce qu'ils ne mangent que du sucre le matin. Mais c'est là où c'est difficile justement d'éduquer les enfants
la réalité
à avoir
du terrain.
Une bonne santé.
Ouais. Bien sûr. Ben, c'était peut-être le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié ? D'ailleurs, si vous êtes encore là dans la vidéo, n'oubliez pas à mettre un commentaire, liker la vidéo et à vous abonner. Et on fera aussi un autre épisode sur le jeûne long. Il sera d'ailleurs en description de la vidéo. Est-ce qu'on a un mot de la fin ?
Oui, le conseil à 1000% pour le jeûne intermittent.
Ou quelque chose qu'on a oublié aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué sur le jeûne intermittent qui était important ?
Je pense qu'on a évoqué plein de choses. Donc la vision est assez complète. Donc, c'est vrai que je pense que le mot de la fin, c'est de découvrir le jeûne comme une fonction physiologique que vous avez oubliée, mais découvrez-le en essayant de découvrir votre corps. Ne pas faire juste un protocole parce que c'est dans un bouquin. Si vous ne savez pas quoi faire, allez voir un nutritionniste. Il faut mieux quand même avoir un encadrement pour pouvoir le faire d'une façon optimale.
Ok, et on peut se faire suivre par qui justement ? Est-ce qu'il y a des professionnels qui font ça ? On peut trouver facilement ?
Maintenant, les nutritionnistes et diététiciens commencent vraiment à être familiers. Ouais. C'est vrai que les médecins généralistes sont un petit peu récalcitrants, mais on peut vraiment se faire aider par un nutritionniste parce qu'ils commencent à découvrir que ce n'est pas juste une histoire de qu'est-ce qu'on mange, mais aussi quand on mange.
Super, ben, c'était le mot de la fin. Un grand merci en tout cas pour cet épisode et à bientôt pour un prochain. Merci aux auditeurs.
Ciao.
Ça va, ça a été ?
Ouais, ça va, ouais.
C'était super, franchement. Ouais.